Osmose Radio.
Osmose Radio.
La web radio qui fait la différence.
Bonjour, bonjour. Pour ce nouveau À bâtons rompus, nous allons avoir un débat sur un sujet explosif. C'est le cas de le dire, puisque l'on va parler du nucléaire. Exceptionnellement, cette émission va durer aujourd'hui 1h30. Pour ce débat, j'ai invité Daniel Courroy, ingénieur au commissariat à l'énergie atomique sur le site de Marcoule, qui s'occupe de l'assistance technique à EDF dans le cadre de l'amélioration du combustible, ainsi que Olivier Florent, vice-président du Conseil général de Vaucluse, conseiller général du canton de Beaulieu, président de la commission santé, environnement, transport public et membre d'Europe Écologie Les Verts. Donc, on a compris quand même que vous êtes là pour défendre des positions opposées. Daniel, pro-nucléaire ?
Pas spécialement pro-nucléaire. En fait, là, je suis là en tant que particulier, pas du tout en tant que représentant du CEA. Tous les éléments que j'ai pu trouver, c'est des éléments que j'ai trouvés sur Internet qui peuvent, à mon avis, servir d'éléments d'appréciation aux gens qui vont nous écouter sur un sujet qui n'est pas si simple que ça. Donc je ne suis pas spécialement pro-nucléaire. Je pense que le nucléaire est nécessaire en France à l'heure actuelle, vu les orientations qui ont été prises.
On va en parler.
Voilà, mais
le CEA, peut-être rappeler ce que c'est
pour... Le CEA, Commissariat à l'énergie atomique.
Voilà. Donc, et Olivier, anti-nucléaire ?
Non.
Alors ?
Ça va être surprenant.
Surprenant.
Oui. Depuis mon récent voyage au Japon, parce que je suis parti à Fukushima au mois de mars dernier, j'y suis allé donc en tant qu'élu et citoyen, accompagné du porte-parole de la Confédération paysanne et deux journalistes. Donc je me plais à dire que je suis allé chercher des réponses à des questions que je n'avais pas là-bas. Donc je suis parti anti-nucléaire et je suis revenu sans nucléaire. Et je pense que c'est un débat qu'il faut peut-être mettre sur la table. Je crois que quand on est anti et quand on est pro, on ne fera jamais changer d'avis les personnes. C'est-à-dire qu'un anti ne fera pas changer un pro et un pro ne deviendra pas anti. Et à l'heure d'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, et je pense qu'on y reviendra tout à l'heure, il ne faut pas être anti. Maintenant, il faut dire « je veux faire 100 », mais dès aujourd'hui.
Ça veut dire amorcer un changement.
Complètement.
D'accord. Alors, Daniel, Marcoule, c'est quand même un lieu emblématique, puisque c'est là que fut construite la bombe atomique.
Non, je pense pas qu'on puisse dire ça.
Il y a quand même un lien étroit entre le nucléaire civil et militaire.
Quand le CEA a été créé par De Gaulle, il est clair que le but n'était pas de faire de l'indépendance énergétique au départ, mais de se doter de l'arme de dissuasion. Donc Marcoule, à travers G1, G2 et G3, a permis de fabriquer un cycle nucléaire et donc de se munir de l'arme nucléaire à travers le PU. De là à dire que Marcoule a fabriqué la bombe, on en est loin, parce qu'elle n'a pas été fabriquée sur Marcoule.
Alors on peut quand même se poser la question, compte tenu du fait que la production en électricité par l'énergie nucléaire est quand même minime par rapport au rendement d'une centrale. C'est-à-dire qu'apparemment il y aurait moins de 30% de production électrique. Donc on peut se poser la question si... cette application civile n'est pas le prétexte justement pour faire avaler la pilule du militaire.
Alors, si on parle de rendement, donc on va parler du fonctionnement de n'importe quel générateur d'électricité, qu'il soit thermique, gazeux ou nucléaire. Et en fait, le rendement, il n'est pas lié à la partie chaudière, hein, donc source de chaleur, mais lié à la partie transformation, vapeur et turbo-alternateur. Donc le cycle de condensation, le cycle de vapeur qui est commun à toutes les centrales, qu'elles soient thermiques, nucléaires ou autres. Donc ce cycle de condensation a un rendement d'environ de 35%. Donc le rendement relativement bas de n'importe quel... production d'électricité est liée au cycle de condensation. Il n'a rien à voir avec le nucléaire.
Quelque chose à rajouter, Olivier ?
Écoutez, de mon avis, je crois que l'industrie nucléaire pour fabriquer de l'électricité, je crois que c'est le moyen le plus compliqué, le plus sale et le plus cher.
On va en revenir peut-être tout à l'heure. Peut-être qu'avant...
Je répondrai avant... plus tard quand on me donnera la parole.
Voilà. Avant de continuer, on va peut-être quand même dire quels sont les besoins actuels en énergie en France. Énumérer cela, je pense que Daniel, c'est important pour vous de commencer par cela.
Donc j'ai regardé un peu, moi, comme je vous l'ai dit, au sein de l'Internet. Bon, il y a différents sites qui permettent de trouver ces renseignements. Donc en énergie globale, la France dépense à l'heure actuelle à peu près, ça dépend d'une année à l'autre, ça dépend des vagues de froid ou pas. Donc dépense à peu près 50 milliards par an pour son énergie globale. Cette énergie globale comporte une partie qui est attribuée au transport, une partie qui est attribuée au ménage, une partie qui est attribuée à l'industrie. Et donc, une partie seulement de cette énergie globale est sous forme d'électricité. Donc, la part actuelle en termes de coût vis-à-vis de la partie électrique est de 5 milliards. Donc, on voit qu'il y a un rapport de 50 milliards à 5 milliards. Pour ce qui est de la consommation globale, à l'heure actuelle, on a 25% de consommation qui est sous forme électrique. Donc, on voit tout de suite... qu'en fait, les 5 milliards de consommation électrique représentent 25% de la consommation globale. Donc, malgré tout, une forme d'énergie qui est peu onéreuse.
Alors, c'est ce qui est dit, mais bon, quand on voit que... qu'il y aura déjà une augmentation de 30% du prix du kilowattheure d'ici 2015... Quand on voit aussi que 80% de l'argent public va à la recherche, c'est d'ailleurs la seule énergie qui bénéficie de l'aide de l'État. Quand on prend en compte la gestion des déchets, le démantèlement des centrales, le renouvellement du matériel, etc., on se dit que finalement, c'est peut-être pas une énergie si peu onéreuse que cela. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Ben justement, je voudrais poser une question à mon interlocuteur. Quand il dit que le nucléaire, c'est la manière la moins onéreuse de faire de l'énergie, je voudrais savoir quels paramètres il prend en compte pour pouvoir affirmer cela. Parce qu'il est évident que si on prend juste le fonctionnement d'une centrale, c'est-à-dire vraiment ce qu'il y a dans les barbelés, d'ailleurs c'est une des seules sources d'énergie qui est entourée de barbelés avec des gardiens qui ont le droit de tuer. Les FLS, entre autres, qui ont été faits par De Gaulle. Bon, c'est quand même un peu bizarre pour un fournisseur d'électricité. Donc, je voudrais savoir quels sont ses paramètres à lui pour nous affirmer que c'est peu onéreux. Alors on n'a pas les mêmes chiffres, peut-être, je ne sais pas. On va voir.
Donc, les chiffres, c'est vrai que si on regarde sur toutes les sources d'informations qu'on peut trouver sur le net et que j'ai pu recouper personnellement par mon travail également, on peut aller du simple au double. Donc, on arrive à trouver des sources qui sont aux environs de 4 centimes le kilowatt jusqu'à 8 centimes. Malgré tout, ces 4 ou 8 centimes sont sans commune mesure avec la même production d'électricité. Et on parle bien d'électricité, puisque j'ai bien fait remarquer qu'en fait, cette partie électrique ne représentait qu'une faible proportion d'énergie globale consommée. Donc, ce coût de l'électricité... Je confirme sur le fait que ça soit minime par rapport au coût de production des autres sources, que ça soit thermique, sous forme gazeuse ou pétrole. Alors, il est vrai que on entend pas mal de polémiques vis-à-vis du fait que le retraitement, le démantèlement éventuel soit pris en compte ou non dans le coût du kilowattheure. Donc, si vous cherchez un peu plus et que vous regardez les sites comme l'ANDRA, que vous regardez les rapports de la Cour des comptes également concernant les bilans attribués à la recherche et par rapport à ce que a dit Samia tout à l'heure, le pourcentage d'argent qui est dévolu à la recherche ne représente pas uniquement la recherche liée au nucléaire, heureusement. Moi je confirme... à travers tous les renseignements qu'on peut trouver sur les différents sites que je vous ai cités, que le prix du kilowattheure, malgré tout ce qu'on peut dire, à l'heure actuelle, intègre d'une part les budgets de fonctionnement, les budgets de fabrication, de construction des centrales, ainsi que le budget des démantèlements. Alors après, on peut croire que les fonds attribués, les fonds dédiés au démantèlement n'existent pas réellement, on peut aussi croire ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Chaque idéologie à ce sujet est amenée au libre arbitre de chacun.
Alors, il y a d'autres arguments en faveur du nucléaire. Il y a certains qui disent que c'est une énergie propre, donc qu'il n'y aurait pas d'impact sur le climat, car cette énergie ne produirait pas de CO2, ce fameux dioxyde de carbone. Ce gaz à effet de serre responsable du réchauffement climatique. Mais quand on voit qu'il faut extraire de l'uranium dans les mines, transporter, il y a le transport terrestre et maritime, il y a la construction des centrales, leur démantèlement, tout cela ne génère-t-il pas du CO2, sans compter toute cette vapeur d'eau, ces gaz libérés dans l'atmosphère ?
Je te laisse répondre.
Oui, Olivier.
Alors, d'une part, si on parle des gaz à effet de serre, effectivement.
Daniel, alors. Je ne sais pas, Olivier ou Daniel ?
Ouais, vas-y, Daniel, je t'écoute.
On parlait des gaz à effet de serre. Donc, en fait, effectivement, il y a la vapeur d'eau, le CO2 venant en dernier, mais il y a aussi des méthanes et tous les gaz à base d'azote également. Donc il ne faut pas prendre en compte uniquement le CO2. Moi, j'ai l'habitude de dire que, en fait, il n'y a aucun système parfait. Donc il est évident que je vais pas aller à l'encontre du fait que dans les mines d'uranium, il y a des tractopelles, des scrappeurs qui vont générer du CO2. Le tout, c'est de savoir, si on arrête le nucléaire, par quoi on va le remplacer. Et si on remplace ce nucléaire par une autre source d'énergie, qui sera forcément fossile, on pourra en débattre après, on va se retrouver devant des générations de gaz à effet de serre qui seront sans commune mesure. Voilà. Donc je ne pense pas que ça soit un paramètre vis-à-vis de l'arrêt éventuel du nucléaire.
Olivier ?
Alors, dire qu'aujourd'hui la parade contre le dérèglement climatique ou réchauffement, comme on peut l'appeler, pour que le nucléaire ait un impact là-dessus, il faudrait multiplier, et j'ai les chiffres sous les yeux, par 10 le parc nucléaire mondial, c'est-à-dire construire 4 000 ou 5 000 réacteurs en plus sur cette planète. Quand on peut voir ce que 4 accidents majeurs ont fait sur la planète, je crois qu'il faut après se poser... C'est pas les mêmes questions qu'il faut se poser que ce que M. Courroy nous pose. Quand je dis 4 accidents majeurs, je le rappelle chaque fois, on oublie l'accident de Mayak, qui a été le premier accident majeur, qui a été en 1957 en Russie, qui a contaminé l'équivalent de 10% de la France, il ne faut pas l'oublier. Nous avons Fremont Island, Tchernobyl, on connaît les conséquences, et aujourd'hui Fukushima. Donc la question, ce n'est pas aller sur des faux débats, s'il faut être, à un moment donné être pragmatique, je pense.
D'accord. Alors moi j'ai une question. Pourquoi malgré tous ces problèmes, tous ces spectres qui pèsent quand même sur nous, y a-t-il une insistance par rapport à ce choix ? Est-ce que ça correspond à une réelle avancée pour le bien-être de l'humanité, présent ou futur, hein ? Ou est-ce que c'est encore pour satisfaire l'avidité d'une poignée d'investisseurs ?
Évidemment. Évidemment, c'est pour satisfaire l'avidité et l'absurdité de certaines personnes.
Qu'est-ce que vous en pensez, Daniel ?
Alors moi, ce que j'en pense, c'est que je suis d'accord avec vous sur l'aspect argument CO2 qui n'en est pas un, dans la mesure où si on regarde la génération globale de CO2 dans le monde, la France n'apparaît que pour 1,3%. Et comme je vous l'ai démontré tout à l'heure, même si on faisait varier de l'énergie nucléaire à l'énergie fossile notre production d'énergie électrique, on parle bien de l'énergie électrique qui représente que 25% de l'énergie globale consommée, on voit bien que c'est 1,3% sur peanuts par rapport à la génération de CO2 mondiale. Donc là-dessus, je suis entièrement d'accord avec vous sur le fait que l'argument CO2 vis-à-vis du nucléaire n'est pas un argument.
Alors, je suis content de l'entendre dire, ça d'un travailleur du nucléaire, puisque j'ai la chance. J'étais militant anti-nucléaire, comme je disais au début de l'émission. Aujourd'hui, je suis élu. Donc j'ai un pied dans les deux mondes, ce qui me satisfait. J'ai eu un petit moment du mal à me positionner. Parce qu'aujourd'hui, je peux, en tant qu'élu, aller visiter des centrales nucléaires. Et là, j'assiste au travail de lobbying de l'industrie nucléaire auprès des élus. Et c'est un argument qui revient sans arrêt. Nous sommes la réponse au dérèglement climatique. Non, vous ne l'êtes pas, monsieur.
C'est le GIEC qui travaille sur ce, ce groupe d'experts fondé par l'ONU.
Oui, tout à fait. Récemment, j'étais donc au Tricastin avec des élus. Alors l'argument, c'est le CO2, la réponse, c'est le nucléaire. Et après, ils ont osé, je dis bien ils ont osé, parce que là, on est sur du mensonge public cautionné par des élus, sur l'autonomie énergétique.
En tant qu'élu, ça ne vous met pas en porte-à-faux d'avoir ce genre de propos ?
Non, pas du tout. Pas du tout. Moi, je fais de l'écologie politique. Voilà. Je ne suis pas là pour satisfaire des personnes. Je ne suis pas là pour recevoir des subventions de l'industrie nucléaire qui arrose toutes les communes autour pour pouvoir se maintenir et pouvoir même agrandir leur site ou faire accepter aux élus des choses qui sont inacceptables, notamment les autorisations de rejet. Moi, si j'étais élu d'une commune autour d'une centrale nucléaire, que j'ai un monsieur qui vient me voir en me disant, par décret ministériel, donc sans débat démocratique, on est autorisé à rejeter. Autorisation de rejet, ce n'est qu'une vulgaire autorisation de polluer. Et bien ça, je trouve ça inacceptable. Et en tant qu'élu écologiste, je suis très à l'aise de pouvoir le dire. Mais je crois qu'aujourd'hui, pouvoir cautionner tous ces mensonges, c'est inacceptable.
Bon, il y a d'autres arguments pro-nucléaire. Donc, on parle d'indépendance énergétique. Alors, grâce au nucléaire, la France serait énergétiquement indépendante. Alors, on a brandi le spectre du pic pétrolier qui aurait été largement atteint. Alors, je mets au conditionnel parce qu'on ne sait pas. Hein, c'est peut-être juste pour faire monter les prix, le prix de l'essence. Hein. Mais donc, la France, c'est faux parce que la France est tributaire des autres pays puisque... la totalité de l'approvisionnement en uranium se fait à l'étranger, surtout en Afrique, au Niger, au Canada et au Kazakhstan. Et deuxièmement, 54 des 58 réacteurs français sont en réalité américains. EDF a payé d'ailleurs très cher la compagnie, c'est Westinghouse, hein, dans les années 70, au détriment de la filière française Graphite Gaz. Pourquoi ce choix ? C'était pas une histoire de choix entre uranium enrichi, uranium naturel. J'ai pas bien compris là.
Je vais répondre à deux questions. La première portait sur la partie indépendance énergétique. Donc, comme je l'ai dit au début, il faut pas faire d'amalgame entre l'énergie globale et l'énergie électrique. À l'heure actuelle, on a une dépendance énergétique fossile. Toute énergie confondue, c'est-à-dire gaz, pétrole et charbon, qui est de l'ordre de 65%. On a une consommation d'énergie renouvelable, bois, agrocarburants, biogaz, qui est de l'ordre de 10%, et une énergie électrique de 25%. Donc, ce qui veut dire que, à l'heure actuelle, on est déjà dépendant. On est déjà dépendant à hauteur de 65% des autres pays, des pays producteurs d'énergie fossile.
D'autant plus pour enrichir l'uranium, la France utilise des centrifugeuses et comme ce n'est pas son domaine, elle fait appel à l'Allemagne, les Pays-Bas, la Grande-Bretagne, etc. Donc elle n'est vraiment pas...
Et l'Iran.
Alors là, il faut faire attention à ce qu'on dit. Dire que la France, ce n'est pas son métier de faire de l'enrichissement alors que c'est elle qui est leader mondial dans ce domaine. Bon, il faut faire attention à ce qu'on dit quand même. Je ne vais pas vous reprendre là-dessus.
Ah, ça, c'est des sources apparemment sûres puisque...
Ah, mais moi, les sources, je vous les ai citées. Vous pouvez aller les vérifier. Elles sont sur Internet.
Moi aussi.
Ah oui. Ah,
non, mais, attention à Internet.
Je ne pense pas... Non, mais c'est pour ça qu'il faut faire un recoupement de sources et aller sur les sites qui soient légitimes. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on entend tout et son contraire, on peut aller du simple au double. Mais après, il y a l'ordre de grandeur qui est important quand même. Quand je dis qu'on va du simple au double entre 4 centimes et 8 centimes, on n'est pas à 50 centimes ni à 1 euro. Hein, on est d'accord. Pour revenir à cette histoire d'indépendance énergétique, à mon sens, si on arrêtait le nucléaire, donc ça veut dire que si vraiment on va faire la politique de l'impossible, on supprime les 25% d'électricité nucléaire. Parce que bon, globalement, on est à 80% d'électricité nucléaire en France. Si on supprime toute l'électricité et qu'on compense nos 25%, On le fera forcément sous forme d'énergie fossile, parce qu'en énergie renouvelable, à l'heure actuelle, notre savoir-faire est de l'ordre de quelques pourcents, 5%. Donc on va passer à 90% de dépendance énergétique. Je vous laisse penser ce que peut représenter 90% de dépendance énergétique vis-à-vis de pays de l'OPEP.
Olivier, vous avez quelque chose à répondre à ça ?
Oui, oui. Alors, j'ai oublié de noter, mais c'est pas grave. De tête, je vais répondre. Quand j'entends ça, je me dis non, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Moi, EDF, j'ai l'impression qu'ils nous ont donné la maladie, ils nous vendent le médicament. Quand on dit qu'on ne peut pas aller sur les énergies renouvelables, bien évidemment, j'ai les chiffres sous les yeux. Au niveau de la recherche, l'industrie nucléaire prend 42%. Monsieur Sarkozy, à l'époque, avait dit qu'il faudra rétablir cet équilibre et 1 euro investi pour le nucléaire devra être 1 euro pour les énergies renouvelables. On n'y est pas. On n'y est pas et ce n'est pas dans leur intérêt. Bien évidemment, quand on nous dit comment on va remplacer le nucléaire, mais il y a des centaines de façons de le remplacer. Déjà, tout à l'heure, on parlait du rendement. Alors, il faut rajouter au rendement le fait qu'il y ait 30% de rendement. Il faut rajouter les déperditions électriques sur les grands réseaux. Ça, on oublie de le citer à chaque fois. On oublie qu'on est dans des États qui faisaient la promotion du nucléaire. Donc, on était dans le tout électrique. Et on le voit aujourd'hui, toutes ces campagnes où il faut vendre des climatisateurs électriques, les radiateurs électriques, c'était un non-sens à l'époque. Mais à l'époque, tout allait bien. Les centrales étaient neuves. On avait de l'électricité à déborder. Il y avait de l'argent de partout. Donc on allait dans ce sens-là. Et c'est là que je suis un petit peu en colère auprès des générations d'avant, de politiques et de chercheurs, c'est qu'on n'a pas pensé à l'avenir. On n'a pas pensé que ça allait vieillir. On n'a pas pensé au coût de l'énergie.
On était dans l'exaltation des 30 glorieuses.
Alors là, je dis aujourd'hui, il suffit, sur le parc nucléaire français par exemple, on le sait, certaines centrales nucléaires fonctionnent juste pour fournir la quantité nécessaire d'énergie pour les usines qui enrichissent l'uranium. C'était le cas de Tricastin, il y avait 3 réacteurs qui, et juste un seul pour le public. Bon, voilà. Donc déjà, de supprimer tout ça, ça nous permettrait petit à petit de sortir du nucléaire. Et après, il y a tout, l'économie d'énergie. Quand je vois aujourd'hui que, par exemple, Déco va nous mettre des panneaux lumineux de partout en France, ce qui est l'équivalent de 3 millions de foyers. Et tout ça éclairé 24 heures sur 24 pratiquement.
Pour
faire de la publicité, pour vendre des radiateurs électriques, par exemple. Vous voyez ?
Donc on est dans le non-sens.
On est dans une logique complètement absurde aujourd'hui de ce tout électrique. Voilà. Quand je pense tout le mal qu'on a à faire entendre à certains élus, de tout simplement de réduire leur consommation dans les communes, mais ça, je crois qu'on ferait déjà sur les économies 30% d'énergie économisée.
Alors ce secteur, le nucléaire, serait créateur d'emplois. Alors passer vers une autre énergie, il y a plein de gens qui ont peur de perdre leur emploi. Mais j'ai envie de dire que pour démanteler une centrale, ça peut être créateur d'emplois aussi, parce que c'est sur des dizaines et des dizaines d'années.
Bien sûr. On va fermer une centrale, c'est pas mettre 3000 personnes au chômage. Bien évidemment, non, il y a un démantèlement. Alors maintenant qu'on a mis le doigt dans le nucléaire et qu'on a mis pratiquement le corps, il faut savoir qu'il va falloir 40 ans pour démanteler à peu près une centrale. C'est le temps qui est donné. Nous avons 2 exemples en France où c'est pas fini parce que presque on ne sait pas faire.
Jusqu'à ce jour, EDF n'a pas réussi à démanteler un seul réacteur nucléaire.
Vous avez Brennelis en Bretagne et il y a un autre réacteur dans les Ardennes qui est dans une montagne qui n'a toujours pas démantelé. Et ils disent aujourd'hui, dans le meilleur des cas, dans 20 ans. Et ça fait 27 ans qu'ils y sont dessus.
Alors, je ne sais pas, Daniel.
Tu es prêt, on me donne la parole ou...
Oui, mais je...
Donc je voudrais répondre déjà à la première partie du débat concernant le remplacement des énergies consommées actuellement. Donc je rebondis sur ce qu'a dit Olivier, je suis entièrement d'accord avec lui, sur le fait que tant que les gens seront avides d'énergie telle qu'ils le sont à l'heure actuelle, on aura bien du mal de trouver une solution. Pour info, en consommation électrique en 2012, on est à aux environs de 500 TWh. 500 TWh, je voudrais bien savoir comment on peut, avec des énergies renouvelables, je parle bien à court terme, hein, donc à moyen terme, je suis assez optimiste malgré tout. Donc j'espère bien qu'on va, on va consacrer de l'argent aux énergies renouvelables et surtout faire en sorte que, ben, que les gens petit à petit comprennent ce qui les attend, et en termes de bioclimatique et en termes de financiers, et vont s'orienter vers une consommation différente. Donc c'est à mon avis un changement profond du mode de vie qui a inculqué aux personnes, et c'est à mon avis également par le biais du genre d'émission comme la vôtre qu'on peut persuader les gens de consommer différemment.
Alors est-ce qu'il y a une réelle volonté de diminuer la consommation, parce que quand on voit qu'une société de consommation par essence existe parce que l'on consomme. Alors, si on arrête de consommer, ça va mettre à mal quand même pas mal de lobbies.
Je pense pas du tout que ça puisse mettre à mal des lobbies. Si on regarde au niveau de la consommation mondiale d'électricité, par exemple, le renouvelable à l'heure actuelle est de l'ordre de 2%. Le nucléaire est de l'ordre de 17%. Donc, ça veut dire que globalement, au monde, les gens consomme. Si on regarde les courbes d'augmentation de consommation, malheureusement, on s'aperçoit que les pays en voie de développement consomment de plus en plus. Et quand je dis de plus en plus, c'est même pas raisonnable quand on voit la Chine, quand on voit l'Inde. Le questionnement qui est d'actualité en France, je dirais, passe pour peanuts par rapport au questionnement mondial. Donc, à mon sens, il est évident qu'en France, il faut qu'on se préoccupe de cette question. Mais de toute manière, quoi qu'on fasse, ça n'influencera pas le monde entier. Il faut en être conscient. Donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'on peut faire tout ce qu'on veut vis-à-vis du CO2. C'est pas le français moyen qui va influencer le climat du futur. Au même titre... Si le français fait évoluer son mode de vie, malgré tout, il subira l'augmentation des sources d'énergie liées au monde entier. Donc, à mon avis, ce qu'il faudrait, c'est que le français moyen, d'une part, comprenne ce qui se passe en termes de crise, comprenne ce qui se passe en termes d'indépendance énergétique et d'idéologie qui est mêlée à l'indépendance énergétique, ce qui est, à mon avis, très important. Ça pourrait éliminer une bonne partie des pressions culturelles et actuelles. Et moi, je suis d'avis de continuer à attribuer des budgets à la recherche pour s'orienter vers des énergies renouvelables cohérentes. Mais il y a quand même une chose qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'heure actuelle, c'est pas en mettant des cellules photovoltaïques comme on a pu le faire, ou en mettant de l'éolien comme on continue à le faire, qu'on va réussir à subvenir aux besoins des gens qui continuent à consommer de la façon dont ils consomment.
Olivier ?
Ben là, le décalage, il est là, puisqu'on est toujours dans ce modèle de société où on nous a vendu, donné le tout électrique, et aujourd'hui, on nous dit, mais comment on va faire ? Voilà. Ce sont les mêmes personnes qui nous ont donné le tout électrique qui, aujourd'hui, nous posent le problème. Alors, on parle du photovoltaïque, mais il n'y a pas que ça, il y a la biomasse. Alors, déjà, on commence par les économies d'énergie. Ensuite, il y a l'éolien, il y a le solaire, il y a le biomasse, l'énergie des mers.
Mais il y a des inconvénients chacune de ces énergies-là aussi.
Bien sûr, mais on a un panel, il ne faut pas être réducteur. Alors, c'est sûr que la réponse, souvent, alors, encore, M. Courroie, il est plus ouvert que certains qu'on peut rencontrer, mais... Ça s'arrête quand, justement, je reprends ce que je disais tout à l'heure sur quand j'avais fait cette visite à la centrale et on avait ce travail de lobbying qui était fait par l'industrie. Les exemples cités en énergie renouvelable s'arrêtaient au solaire et aux éoliens. Alors qu'on a tout. On a le pays d'Europe où on a le plus de côtes maritimes. Vous avez vu des programmes offshore dignes de ce nom ? Non. Alors ce qui se passe, c'est que l'Allemagne qui est sortie. Qui est en train de sortir du nucléaire.
En train de sortir.
C'est pour ça que je me suis repris. En train de sortir, eux, sont partis sur les énergies renouvelables. Et ils vont arriver, ils vont être leaders. Et nous, oui, obstinés dans cette décision de continuer dans le nucléaire, parce qu'on continue l'air de rien. Je veux dire, c'est pas parce que M. François Hollande a dit qu'on allait fermer, on allait au conditionnel fermer Fessenheim qu'il faut crier au hurra et monter au plafond. Il ne faut pas oublier qu'il y a quand même une centrale qui est en train de rouvrir, donc on n'est pas oui. prêt de sortir du nucléaire.
Bon, par rapport à l'Allemagne, effectivement, mais leur besoin en énergie est toujours là. Mmh. Et ne se tournent-ils pas vers d'autres pays pour acheter justement l'électricité? C'est aussi un problème, ça.
La France, par exemple.
Oui. Vers la France.
Oui, mais... Et là, ils sont très malins. Parce qu'en fait, à l'heure actuelle, les Allemands, si on regarde la vente d'énergie électrique aux Allemands, on est à peu près sur une balance. Sauf que, sur une balance en termes de kilowatts. Par contre, au niveau financier, on en est loin. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le prix de l'électricité, c'est un marché qui est très complexe, qui fait appel, comme la bourse, enfin, d'ailleurs, c'est un marché de bourse, qui fait appel à donc un prix de kilowatts qui varie suivant l'heure et suivant la demande. Donc c'est un marché spot. Et ce marché spot, les Allemands l'utilisent très très bien, puisqu'en fait ils nous achètent de l'électricité quand on en produit à un prix bas, et ils nous en revendent avec de l'énergie fossile, à des prix spot, en gros 20 fois le prix auquel on leur a vendu.
Bon, ils sont très malins.
Oui, tout à fait.
Oui, parce que nous, dans notre prix d'électricité, on ne prend pas tous les paramètres du nucléaire en compte. Si aujourd'hui, il faut le savoir, si aujourd'hui, toute l'industrie nucléaire, tout le coût de l'industrie nucléaire, qui sert à faire de l'électricité, et accessoirement des bombes atomiques, mais ça c'est encore un autre budget, mais si on mettait le coût total de la fabrication de cette électricité-là, on ne serait pas les champions d'Europe du prix d'électricité, il faut le savoir.
Bon. Ça, c'est un argument. Moi, je voudrais qu'on me prouve le contraire.
Ben, je peux. Je
Alors,
vais te
moi,
le prouver.
Je propose quand même qu'on souffle un peu en écoutant un petit morceau de musique. Ensuite, on abordera le chapitre santé, parce que le nucléaire pose quand même de réels problèmes sanitaires.
Alors, hein, juste avant d'aborder l'aspect santé, si vous voulez, pour en terminer avec la partie remplacement d'énergie par du renouvelable, j'ai trouvé un article qui est paru dans Le Monde en 2012. Donc c'est une personne qui s'est projetée dans l'arrêt du nucléaire et qui, à mon avis, a bien fait les choses, parce qu'elle a regardé les coûts actuels de l'électricité, le coût actuel donc l'électricité nucléaire, l'électricité sous forme d'énergie renouvelable, qu'elle a quantifié. Alors, est-ce qu'elle a pris les bons coups, pas les bons coups? Comme je l'ai dit, de toute manière, après, c'est un problème d'échelle. Et pour moi, l'échelle, même s'il est du simple au double dans les coûts, on reste de l'ordre de quelques centimes. Donc, je pense que c'est objectif. Donc, cette personne a établi qu'en fait, le prix du mégawatt nucléaire était de 42 euros à l'heure actuelle, décomposé en 17 euros pour le fonctionnement. Et le reste pour tout ce qui était construction, fabrication. Donc, si on fait l'état actuel, parce que ce qu'il faut quand même voir, c'est l'état actuel. C'est vrai que le Français moyen a payé certaines choses. Elles font partie de son patrimoine, heureusement, il les a acquis. Et grâce à ça, on a à l'heure actuelle une énergie qui est peu chère. Donc, à ces 17 euros de fonctionnement, il a rajouté, suite aux événements de Fukushima, qu'a très bien cité Olivier, un surcoût qui est loin d'être négligeable, qui serait de 13 euros par mégawatt, donc qui est envisagé vis-à-vis de la prise en compte par l'autorité de sûreté nucléaire de la remise à niveau du parc français, afin de le rendre sûr vis-à-vis de toutes les possibilités d'accidents qui ont pu être évalués. On arrive donc à un coût d'une trentaine d'euros. Cette trentaine d'euros, il l'a comparé aux 61 euros nécessaires pour faire du thermique, aux 69 euros nécessaires pour faire de l'éolien et aux 117 euros alors, éolien terrestre, 117 euros pour l'éolien maritime et 293 euros pour le solaire. Donc, il arrive à une moyenne de 135 euros pour les énergies renouvelables. Donc par rapport à nos 30 euros, ça nous fait une différence de 100 euros, 135 pour 30. Ce qui fait que, sachant que chaque centrale nucléaire fournit 7 TWh par an, s'il fallait fabriquer ces 7 TWh par l'énergie renouvelable au coût actuel, hein, donc c'est sûr que si on investit beaucoup et longtemps dans ces énergies renouvelables, on arrivera à baisser les coûts, mais ce ne sera pas instantané. Donc à l'heure actuelle, ce calcul a le mérite d'exister. On a une différence de coût de 735 millions d'euros par réacteur. Ce qui veut dire que, en gros, à la louche, chaque Français sera obligé, si on arrête un réacteur, de payer la différence.
Alors, à combien le coût d'un kilowattheure d'électricité électronucléaire aujourd'hui, à combien s'élève ?
4 centimes à peu près. Donc on arrive à 40 euros le mégawattheure.
Donc avant, en 1960, donc avant le passage vraiment au nucléaire, il était à 0,09 centimes.
Mais ce qu'il faut, c'est comparer le prix du kilowattheure aujourd'hui, c'est-à-dire soit on le produit par l'énergie fossile, soit on le produit par l'énergie renouvelable, soit on le produit par du nucléaire, peu importe. Soit on diminue la consommation. Le tout, c'est de trouver une solution. Les solutions miracles n'existent pas. Il y a une chose aussi qu'il faut voir, c'est que l'éolien, quand il n'y a pas de vent, ça ne fonctionne pas. Et le solaire, quand il fait nuit, ça ne fonctionne pas non plus. Donc il faut trouver aussi une solution pour remédier à ces périodes de non-production.
Ok, allez, un peu de musique pour détendre l'atmosphère. Un morceau de votre choix, Olivier, c'est quoi ? Kenny Arcana ? Pourquoi Kenny Arcana ?
Tout simplement, j'aime bien cette chanteuse marseillaise, donc on est bien dans le local. Et j'aime bien parce qu'à 23 ans, elle écrit des textes dans le rap qui n'est pas forcément une bonne publicité auprès du grand public. Elle a fait de très beaux textes qui me plaisent beaucoup. Et elle appelle à une réflexion auprès des jeunes et je vous invite à apprécier ces textes-là.
Donc, terre-mère n'est pas à vendre.
Répandu le sang un peu partout sur ton sol. Couvert de ciment jusqu'à étouffer ton sol.
Te détruise pour du papier.
On souillait tes profondeurs. Pour nous faire croire en ton deuil, on ne portera pas ta tombe. Car on veut te voir vivre. Ils t'ont séquestré de leurs ombres. Nous, on veut te voir libre. Tes enfants t'entendent crier au centre ta souffrance. Aujourd'hui sont prêts à se battre pour prendre ta défense. Les puissants te persécutent comme ils nous persécutent. Tombés dans la démence et charmés par Belzébuth. Après t'avoir pillé, fragmenté, bombardé, vidé de tes substances, tes richesses ils ont gardé sans aucun respect. Se sont appropriés ta chair depuis des millénaires. Pour t'avoir se font la guerre, Pachamama. Tes enfants sont toujours là, éparpillés sur le globe. Le point levé pour le combat, Pachamama. C'est nos racines qui sont en toi. Tout notre amour sera plus fort que notre désarroi, Pachamama. Ton vase rempli à rapport, ils t'ont condamné à mort et nous ont condamné à mort. De toutes parts s'élèvent nos voix. Allez leur dire d'avance que malgré leur mauvaise foi, terre mère n'est pas à vendre. Fatalité sublimée sous la flèche de Lucifer. Civilisation suicidaire. Les puissants se font la guerre pour te voler tes richesses. T'ont mis à la vente tes brevets de chacune de tes espèces. Terre, mère, patrimoine ancestral de vie. Considéré comme une vulgaire marchandise à leur service. Pachamama, on porte ta tristesse dans nos airs. Exploité comme nous autres, ta détresse est dans nos êtres. Pachamama, tu es le reflet de nos cœurs. Torturé et meurtri dans le siècle de l'horreur. Pachamama, ils ne voient pas ta souffrance, encore moins ton amour, ni le souffle d'une dernière chance. À tous les enfants de la terre, le mot d'ordre est délivrance. Allez leur dire que notre mère n'est pas à vendre. Soit respectée, que ton règne revienne, que tes enfants puissent t'aimer. Donne-nous aujourd'hui la force d'y croire, pardonne-nous notre rage, qu'on se nourrisse d'espoir. Ne nous soumets pas au cynisme que l'homme moderne cultive, livre-nous de la machine et de sa haine qui nous surine. Que ta force reprenne ses droits, qu'on se rappelle que c'est toi qui reçois la vie sous la lumière des étoiles. Ils ont répandu le sang un peu partout sur ton sol, ton recouvert de ciment jusqu'à étouffer ton sort. On t'empoisonnait ton air, souillait tes océans, tes rivières et tes mers, et on vampirisait ton sang. Ils ont fracassé tes saisons, déréglé ton climat, nous ont coupé l'horizon avec du béton dégueulasse. Ils ont exterminé ta faune, racheté ta flore, sous-estimé ta force pour nous condamner à mort. Pachamama,
voilà, voilà. Alors, pour reprendre un petit peu ce débat sur le nucléaire, nous allons donc aborder le chapitre santé, les problèmes sanitaires. Et j'aimerais parler avec Jean Revest, qui est donc par téléphone membre du collectif antinucléaire du Vaucluse, Cannes 84. Bonjour Jean Revest, vous êtes là ?
Oui, bonjour.
Voilà. Donc très bien. Donc le collectif anti-nucléaire de Vaucluse, c'est la même chose que sortir du nucléaire ou vous êtes de trucs indépendants? Expliquez-moi un petit peu.
Nous on est on est un collectif de citoyens et de citoyennes donc qui fonctionnons en toute indépendance, autonomie par rapport soit aux ONG, soit aux partis politiques, soit aux questions idéologiques. En fait, on s'est regroupé effectivement sur la base tout simplement de « on ne veut plus servir de cobaye à l'industrie nucléaire et aux fous furieux du nucléaire pour des raisons purement sanitaires et de santé publique. Il faut arrêter ce nucléaire.
Bon, » Pour vous, c'est pas dans 30 ans, l'arrêt, c'est tout de suite, si j'ai bien compris.
Oui, bien sûr, parce que vous comprendrez bien et tout le monde comprendra qu'à danger immédiat, arrêt immédiat, on ne peut pas être en face de gens qui sans arrêt nous envoient des balles de revolver sur nous et nos enfants, et dire bah non, on va continuer à en prendre un peu, on va continuer à se faire dégrader, à se faire mutiler, et puis on verra s'il y a une alternative. Non, ça c'est pas sérieux, ça serait incohérent de dire le nucléaire est dangereux et de dire on va le garder encore 10 ou 20 ans.
Bon, un peu comme Greenpeace, vous êtes les empêcheurs de tourner en rond du nucléaire, vous frappez très fort avec plusieurs manifestations antinucléaires, des marches antinucléaires. En août dernier, c'était vous ?
Oui, tout à fait. On a organisé cette marche citoyenne au travers des départements de Vaucluse, Bouches-du-Rhône et Gard pour rallier les trois sites nucléaires qui menacent la Provence au quotidien. Cadarache dans les Bouches-du-Rhône, Tricastin en Vaucluse et Marcoule dans le Gard, où l'un de vos interlocuteurs travaille d'ailleurs. Et donc ce sont trois sites nucléaires qui ne sont pas que des centrales électriques, qu'on comprenne bien. À Cadarache, il y a 19 installations nucléaires de base, dont un grand nombre sont des installations secrètes militaires. Marcoule aussi, il y a des installations militaires et civiles. Tricastin, on vient d'apprendre, là, il y a 15 jours, par hasard, qu'il y avait aussi une installation nucléaire militaire secrète à Tricastin. Donc, et toutes ces installations rejettent au quotidien des radioéléments, de la radioactivité, qui est diffusée
justement
dans l'air et dans l'eau et qui contamine notre air, notre eau.
On va en parler.
Et les territoires, quoi.
Donc vous interpellez les élus du département, les conseillers régionaux, les députés, les sénateurs, les préfets pour rallier à votre cause, pour faire prendre conscience. Vous avez même proposé aux salariés, aux syndicats de se rencontrer, d'essayer de mettre un terme à la barrière, je cite, artificiellement dressée par le lobby nucléaire qui ne profite qu'aux forces de la mort et de la prédation. C'est fort, ça.
Oui, la lucidité est toujours très forte dans une ambiance conformiste et d'endormissement menée par les forces économiques, idéologiques et politiques, c'est sûr que d'ouvrir les yeux, ça peut apparaître comme quelque chose de fort, mais nous on estime que la population n'est pas un troupeau de moutons, que les citoyens sont des gens en capacité de comprendre et de conscientiser et d'agir. Donc évoquer la réalité et dire ça ne va pas et ça ne peut pas durer, oui c'est fort parce que c'est pas dans l'air du temps, mais je crois que c'est dans la nécessité du temps.
Alors vous dénoncez une omerta qui selon vous fait pression sur les salariés et les techniciens contrôleurs pour qu'ils se taisent sur les failles et les insécurités qui pèsent sur les populations riveraines.
Oui, là encore, on n'est pas les seuls à le dire, des institutions officielles sanitaires, les salariés du nucléaire, et comme était évoqué plus précédemment, il suffit d'aller sur Internet, mais pas uniquement sur Internet. Effectivement, par contrat, les salariés du nucléaire risquent leur emploi s'ils dénoncent un certain nombre d'incidents nucléaires, et il y a des témoignages de salariés qui disent « Nous, quand on fait une inspection, une réparation, qu'on constate des failles, des fissures, notamment dans des cuves, mais ça c'est très grave, dans les cuves de réacteurs, ou dans des vannes défaillantes, eh bien on nous oblige à marquer sur le livre de bord RAS, rien à signaler,
On a vu pour Fukushima, TEPCO, qui est le comment on appelle ça,
ceux
qui
l'exploitant.
L'exploitant électrique, qui ont caché une fissure dans du matériel depuis 10 ans.
Oui, voilà. Et en France, c'est pareil. Hein. Il faut savoir que, pour reprendre que les chiffres de 2010, de l'année 2010, les chiffres officiels de l'autorité de sûreté nucléaire, il y a eu 1000 incidents nucléaires en France dans le cycle nucléaire, dont 250 en vallée de Rhône-Durance, la vallée la plus nucléarisée, la zone la plus nucléarisée d'Europe. C'est-à-dire qu'il y a une loi de l'Omerta. Du fait de l'origine du nucléaire, qui est une origine militaire, et la bombe atomique, dont le plutonium était fabriqué et continue à être fabriqué à Marcoule. Et donc, effectivement, l'assemblage des bombes ne se faisait pas à Marcoule, mais la production de plutonium artificiel, radioactif, démentiel, se faisait à Marcoule, à tel point qu'aujourd'hui, le Rhône est pollué jusqu'en Camargue. On retrouve des traces de plutonium en Camargue. Et le plutonium, c'est quoi? C'est 0,1 mg mortel. Donc, je veux dire, on est face à des criminels. Voilà.
On en avalerait chaque jour entre 1 et 3 mg.
Non. Alors, pas de plutonium, hein, attention.
Non,
faut pas. Voilà. Officiellement, mais c'est pas légitime, toutes les installations nucléaires de base, qu'elles soient en vallée du Rhône, Durance ou ailleurs, sont autorisées à contaminer l'air et l'eau. Elles ont des autorisations données par les préfectures aujourd'hui, avant c'était par l'institution nationale, des autorisations de rejet quotidien, c'est-à-dire que jour et nuit, chaque installation, que ce soit les réacteurs, les autres installations de production d'uranium, d'enrichissement d'uranium, de traitement, de recherche, sont autorisées à contaminer notre air et notre eau, à tel point que on a retrouvé, le CAN84 a retrouvé, en faisant faire des analyses d'eau, on a retrouvé du tritium dans
justement
l'eau du robinet, dans trois villes du département, Mornas, Carpentras et un peu Avignon.
Pas seulement dans l'eau, dans l'air qu'on respire, la nourriture, oui, qu'on mange aussi.
Oui, c'est ça, tout à fait. C'est une chaîne, c'est terrifiant. C'est pour ça que nous, on évoque que le mot de crime et de criminel, pour ceux qui font la promotion et qui défendent le nucléaire, ce sont des criminels. Parce que l'ensemble de notre contexte de vie, à nous, aux humains et aux territoires, est contaminé au quotidien. Dans la chaîne alimentaire, les terres agricoles nourricières, l'eau avec lesquelles éventuellement on fait la nourriture, on lave le biberon de l'enfant, on se lave. Il faut savoir que le tritium, c'est un radionucléide, donc un élément radioactif qui pénètre la peau à partir de 0,1 mm. C'est-à-dire qu'on prend la douche, il y a du tritium dans l'eau, le tritium pénètre notre corps. Et le drame, quoi qu'en disent les tenants du nucléaire, il n'y a pas de dose de radioactivité inoffensive.
Alors,
la moindre petite dose est mortelle.
Alors, tout à l'heure, je parlais de l'uranium, ce métal lourd radioactif,
oui,
qui a d'ailleurs une durée de vie énorme. Ce serait de 700 millions à 4,5 milliards d'années.
Oui, alors voilà, l'industrie nucléaire met en œuvre la destruction atomique, qui génère donc des radioéléments, dont des durées de vie et des intensités sont très variables. On entend souvent parler on a généré des déchets à vie courte. Il faut savoir que les déchets à vie courte pour l'industrie nucléaire, c'est minima 300 années, 300 ans, durée de radioactivité totale. Et la plupart des radioéléments à vie longue, certains ont 1 million d'années. On est dans la démence. C'est même inimaginable que des êtres humains aient osé hypothéquer le présent et l'avenir de toute une planète et de milliers de générations de nos enfants, petits-enfants. Et c'est du concret, c'est pas que des chiffres.
Et concernant l'iode, par exemple, qui est cancérigène à long terme pour la glande thyroïde, oui. puisqu'on la retrouve dans le lait de vache, donc cette glande qui régit la croissance du bébé et de l'enfant, c'est quand même peut-être aussi problématique.
Oui, oui, tout à fait. Alors l'iode, non seulement se fixe sur la glande thyroïde, mais sur les ovaires, parce que ça, on n'en parle jamais. Mais ça veut dire que c'est le principe même de la reproduction du vivant qui est attaqué par l'activité nucléaire et les rejets quotidiens. Alors il y a l'iode, il y a le tritium, il y a le carbone 14, il y a le césium-137. Et tout ça, c'est autant d'éléments radioactifs qui vont se fixer sur les glandes thyroïdes, sur le foie, sur les ovaires, sur les muscles, sur les os. C'est autant de cancers induits. Radio-induit, c'est aussi des lésions intracellulaires, c'est des atteintes possibles du fœtus, c'est des conséquences fonctionnelles mutagènes, c'est des maladies héréditaires, c'est le système nerveux qui est attaqué. Et on voit par exemple en Vallée du Rhône, et ça c'est dramatique parce qu'il y a l'omerta, on voit en Vallée du Rhône par exemple une augmentation des enfants accueillis dans les hôpitaux pour des cancers de la thyroïde.
Bon, donc, alors c'est inadmissible. Je vais donner la parole à Daniel parce qu'il a l'air de ne pas être d'accord sur certaines choses que vous avez dit.
Bonjour.
Bonjour.
En fait, je ne suis pas vraiment d'accord, d'une part sur le principe, parce que j'aime pas tellement qu'on manipule les gens par la peur. Chacun a le droit d'avoir son opinion. Bon, il y a quand même des choses qu'il faut peut-être pas dire. Quand j'entends dire un produit nucléaire, quelle que soit la dose, est mortel, il faut faire attention à ce qu'on dit. Un produit nucléaire, quelle que soit la dose, est dangereux, je veux bien l'entendre, quelle que soit la dose, est mortel, c'est l'échelon au-dessus. Si on veut parler du nucléaire, bon, forcément, c'est pas simple, c'est comme l'électricité quand elle est apparue. Y a beaucoup de personnes qui ne savent pas de quoi on parle et quelles sont les unités utilisées dans cette science. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que je suis d'accord avec vous sur la pollution qui peut exister suite aux différents rejets qui sont faits en toute législation. Hein. Donc on rebondit sur ce que disait Vincent tout à l'heure sur le bienfait ou non des autorisations de rejet. Donc là, c'est un autre débat. Mais il faut quand même... Moi, je suis quelqu'un qui relativise toujours tout. L'homme n'est pas parfait, le monde dans lequel il vit n'est pas parfait, l'industrie n'est pas parfaite. Malgré tout, l'homme vit en société, l'homme a besoin de progrès techniques, a besoin de science, a besoin d'énergie. Et le sachant, il sait qu'il aura un prix à payer. Ce prix à payer, c'est la pollution de la planète. C'est le dérèglement climatique, c'est les maladies, c'est tout un tas de choses qui sont de plus en plus mises en évidence à l'heure actuelle. Mais je n'aime pas entendre dire que le nucléaire est responsable de tout le malheur du monde. Si on parle, par exemple, de pollution des cours d'eau en France, on peut parler du pyrolène. Le pyrolène, on peut parler de tout un tas de métaux lourds également,
c'est
le mercure et autres.
On peut parler de pollution chimique aussi.
Tout à fait. La pollution chimique, si on va par là, si on regarde la mer des Sargasses, il y a une surface qui est grosse comme la France, qui est polluée par les plastiques. Comme je dis tout à l'heure, la France n'est pas malheureusement pas responsable de tout, heureusement. Et moi, je suis entièrement d'accord sur le fait que les Français et l'industrie française essayent de faire au mieux avec les moyens qu'on a, parce qu'il n'y a pas de système parfait. J'espère qu'on en parlera
après. Donc pour vous, le nucléaire, c'est le moindre mal.
Tout à fait. Je dirais que le nucléaire n'est pas innocent, mais par rapport au reste, il n'y a pas à l'heure actuelle de preuves tangibles. Je parle bien de preuves tangibles, comme quoi le nucléaire en France a généré des cancers ou des choses comme ça, plus que l'industrie chimique.
Bon, on va quand même parler de certains scandale de la face sombre du nucléaire tout à l'heure, ça va remettre un peu en question ce qui vient d'être dit. Mais peut-être que je vais laisser la parole à Olivier avant.
Ce que je viens d'entendre à l'instant me ramène à la soirée que j'ai passée hier où je suis allé voir le film de Jean-Paul Jaud à Oupen, petit village, très sympathique village de mon canton. Hop, je ferme la parenthèse. Non, plus sérieusement. Pour ceux qui ne savent pas, donc c'est un film qui a été réalisé par Jean-Paul Jaud et qui parle du lien entre les OGM et le nucléaire. Je vais juste vous apporter une petite précision qui a quand même un sens. Il faut savoir que Monsanto, aujourd'hui, qui se présente comme le leader de l'agriculture à venir, était le même qui a travaillé sur la bombe atomique sur le projet Manhattan en 1944. Le lien est fait. Et ce film donc parle de l'étude de Gilles-Éric Séralini sur le cancer que des rats ont eu suite à une alimentation avec des OGM. Et bien le nucléaire, c'est pareil. D'ailleurs, ce monsieur, il est arrivé par prouver, par A plus B, qu'en nourrissant des animaux, donc accessoirement, nous, indirectement, j'entends de la musique. Bon, il y avait des cancers. Et bien le nucléaire, c'est pareil. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le gouvernement français, pays industrialisé, moderne, est incapable, comme le disait Jean, de produire un document officiel attestant qu'il y a une augmentation de cancer autour des centrales. Alors quand je pose la question à qui, on me dit « Ah, mais il y a des études de cancer ». Non, elles ne sont pas valables, elles ont été faites d'une manière qui n'a pas de sens, et on est dans cette configuration-là. C'est-à-dire qu'on n'ose pas. Secret industriel, pour les OGM, c'est bizarre pour la nourriture, on met du secret industriel. Et là, pour le nucléaire, c'est pareil. On n'est pas capable de faire une étude. Alors qu'il me semble que depuis des années, on vit sous l'époque des sondages, où on avait un gouvernement à l'époque qui faisait des sondages pour savoir si M. Sarkozy était bien coiffé le lundi ou mardi, etc. Mais on n'est pas capable de faire une enquête digne de ce nom, faite par des organismes d'autorité de la sécurité nucléaire, sur l'étude des cancers autour des centrales et dans la vallée. Alors, peut-être qu'il y en a, elles sont cachées, mais elles, en tout cas, elles ne sont pas publiques. Et là, je m'inscris en tant qu'élu. Voilà. Je pose la question que le gouvernement fasse une bonne fois pour toutes cette étude faite par un organisme, je précise, indépendant.
Bon, il y a quand même des précédents. Quand on voit au Gabon l'exploitation des mines d'uranium par Areva, j'ai vu dernièrement un reportage là-dessus, ça a laissé une gigantesque poubelle radioactive qu'elle a tenté d'ailleurs de camoufler en partant, en l'enfouissant. La contamination se trouve jusque dans les habitations des gens, dans l'eau qu'ils boivent, dans ce qu'ils mangent, etc. Et des cancers et des... tire l'arigot quand
mais
même.
Vous savez, c'est un peu l'histoire du loup. Tout le monde le voit, mais tout le monde sait qu'il est là, mais on le voit jamais. Ben, les études sur le cancer avec le nucléaire, c'est pareil. Tout le monde sait que ça donne le cancer, majoritairement, mais on n'a jamais une preuve crédible.
Voilà. Jean, vous avez quelque chose à rajouter ?
Oui, je crois qu'il faut arrêter de se faire comme ça, de faire des discussions de salon. Alors, je ne dis pas ça pour le dernier intervenant, là, évidemment. Mais le nucléaire, c'est pas une question de salon, c'est pas une question technique, c'est pas une question d'accord politicien. C'est une question sanitaire et de santé publique. Au quotidien, la radioactivité atteint nos organismes et nos territoires. Et depuis 1945, date des premières bombes atomiques et du développement de l'industrie nucléaire, la radioactivité de la Terre a été multipliée par 2,5. Les organismes.
C'est pas possible, on peut pas laisser dire ça. Je suis désolé, il faut arrêter, on peut pas laisser dire ça.
Les organismes officiels internationaux, et ce ne sont pas des antinucléaires, indiquent que depuis 1945 est estimé le nombre de morts à 60 millions dus au nucléaire, à la radioactivité artificielle. 60 millions.
Je n'évoque pas vrai ou faux.
Le dernier million de Tchernobyl et Fukushima. Les milliers et les dizaines de milliers d'enfants et d'adultes qui vont développer des pathologies. Donc aujourd'hui, il faut briser ce mur du silence, cette omerta imposée depuis l'origine par le nucléaire, notamment militaire. Il n'y aurait pas de nucléaire civil s'il n'y avait pas eu la bombe atomique. Les deux sont liés et à danger immédiat, arrêt immédiat. Il ne s'agit pas de discuter du bien fondé ou non de telle ou telle technique ou technologie ou de telle durée. Il y a un crime aujourd'hui, il faut l'arrêter. Et les gens qui font la promotion du nucléaire devraient passer devant des tribunaux internationaux pour jugement.
Alors, réponse,
et ni les scientifiques qui travaillent là-dessus, ils peuvent très bien mettre leurs compétences au service de causes beaucoup plus nobles et moins nocives pour la vie et la santé.
Alors, réponse de Daniel.
Alors, encore une fois, je dis qu'il faut arrêter de semer la peur auprès de la population. Donc, je vous l'ai déjà dit une fois, je le répète, mais bon. Après, on peut pas. On a tous notre droit d'expression. Concernant les doses, puisqu'on parle de doses, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que la radioactivité naturelle, elle est de l'ordre de 2 à 3 millisieverts, hein, d'accord. Certains endroits, elle est de 50 millisieverts par an. Et autour des sites nucléaires, les mesures sont faites journalières, diffusées sur des sites respectables, et elles montrent qu'on est en dessous des normes qui sont peut-être discutables, mais qui sont en tout cas établies, et qui sont de quelques millisieverts. Voilà. Donc après, que vous disiez qu'on a multiplié l'activité par je ne sais pas combien, bon, vous pouvez le dire, hein, il n'y a pas de souci. De là à faire peur à la population complète, je pense qu'il faut faire attention à ce qu'on fait. D'autre part, on parle de... Le thème de l'émission, à mon sens, c'est rester ou non dans le nucléaire vis-à-vis de la production d'énergie électrique. Il y a une question qu'il faut se poser, c'est si on l'arrête... Quel est le bénéfice et quels sont les risques pour la production d'électricité dans d'autres modes d'énergie fossile, on va dire. Là, vous avez parlé de gens malades et de morts dans le domaine du nucléaire. Est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir, en termes d'extraction du charbon, en termes de pollution liée à cette extraction, en termes de silicose, de morts, de coups de grisou, de gaz et tout ça, est-ce que vous avez énuméré tous ces gens qui sont morts?
Alors, puis-je répondre?
Oui, tout à fait.
Oui, alors, d'une part, alors je prends à l'envers. Hein. La question du nombre de morts, malheureusement, ce n'est pas une question statistique. Vous n'abordez la question que du point de vue de ceux qui travaillent dans telle ou telle industrie. Effectivement, il y a eu des morts dans le charbon, malheureusement. Sauf que les populations alentour ne sont pas mortes. Il y a eu des morts dans d'autres industries, mais la population n'est pas morte.
Je suis désolé. Les gens qui meurent de silicose autour, ils meurent aussi.
Le problème de la radioactivité, c'est qu'elle ne connaît ni frontières géographiques, ni frontières politiques, ni frontières de race. Et quand la radioactivité se diffuse, ça n'atteint pas que les travailleurs du nucléaire, et il y a des morts dans le nucléaire, évidemment, mais ça atteint toutes les populations civiles à qui on n'a jamais demandé l'avis, est-ce que vous voulez être contaminé ou pas.
Par rapport aux
aspects de mort. Sur la question des normes, là encore, il ne faut pas faire de la désinformation. Il n'existe pas de normes internationales de radioactivité, d'acceptation de radioactivité. Autrement dit, c'est... Les normes sont en fonction de chaque pays, du poids du lobby nucléaire dans chaque pays. Ainsi, les normes ne sont pas les mêmes aux États-Unis qu'au Canada, qu'en France et qu'ailleurs. Donc, les normes ce ne peuvent pas être une valeur reprise, et y compris, je dirais, en France, puisque l'ASN a déclaré que la question des normes devait être remise en cause. Deuxièmement, les mesures journalières que monsieur évoque et sur le site qu'il évoque, j'invite les gens, les auditeurs à aller sur ce site de mesures journalières de radioactivité et de voir à quelle période ça s'est arrêté. Ça va faire un an, si ce n'est plus, qu'il n'y a plus de mesures, notamment dans la région d'Avignon. Donc, là encore, on est face à une désinformation, à une manipulation. Quant aux doses, aujourd'hui, tous les scientifiques les plus honnêtes, pas ceux qui sont intoxiqués idéologiquement, tous les scientifiques honnêtes du monde disent qu'il n'y a pas de dose anodine. Et ce n'est pas parce que la Terre est radioactive naturellement, de par son évolution dans l'univers, qu'il faut artificiellement rajouter encore de la radioactivité qui va encore plus porter atteinte à la vie et à la santé des gens.
Bon, j'ai envie de dire que quand même la plus grosse peur, c'est qu'un cœur nucléaire se mette en fusion. Ça serait la catastrophe. Et quand on voit la catastrophe de Fukushima, ça a mis quand même à jour toutes les failles d'un système de sécurité. Parce qu'au début, après le séisme, bon, la situation était plus ou moins sous contrôle. Il y a eu des pannes électriques, etc. Mais quand il y a eu après le tsunami, là, on a vu vraiment une des plus grandes puissances, le Japon, qui, complètement impuissant face à cette situation. Donc on se dit qu'avec tous les réacteurs qu'il y a en France, hein, il y en a combien ? 58 ?
Oui. 58.
On est sur des bombes à retardement.
Oui. Fukushima aussi était très sûr. Et c'est ce qu'on nous dit en France, notre nucléaire est sûr. Mais non, il n'existe pas de nucléaire sécurisé pour la simple et bonne raison, et tout le monde va le comprendre. Le principe du nucléaire repose sur la destruction de l'atome. Donc c'est-à-dire une destruction du cœur pour produire de la chaleur. Mais une fois que la destruction a lieu, on essaye de la contrôler, mais elle n'est jamais contrôlable à 100%. Donc autrement dit, le principe même de la destruction atomique génère le risque. Il n'existe pas, il ne pourra jamais exister de nucléaire sécurisé. Et il faudrait à un moment donné dire, mais qui a imposé ça à la France ?
Alors j'ai envie de poser une question à Olivier qui revient de Fukushima. Où en est la situation actuellement ?
La situation aujourd'hui à Fukushima, elle est absolument dramatique.
Ah oui, il semblerait.
Voilà. On est sur un génocide d'une population contrôlée par les organismes d'État. Voilà, tout simplement. J'ai appris ce matin, la dernière bonne nouvelle, entre guillemets, du gouvernement japonais, c'est que, avant, il y avait un dispositif où ils bloquaient des appartements pour les réfugiés. Dans les préfectures voisines. Ils viennent de bloquer ce dispositif. C'est-à-dire qu'en bloquant ce dispositif, ils obligent les populations à rester au sein même de Fukushima.
Donc on n'a pas le droit de partir.
Voilà,
qui se passerait aussi s'il y avait la moindre catastrophe en France. C'est qu'on peut nous imposer ça.
Alors, je vais y venir si vous voulez, je peux vous répondre. C'est qu'aujourd'hui, je défie quiconque dans l'industrie nucléaire, que ce soit homme politique ou préfet, de me dire ou d'expliquer à la population qu'est-ce qui se passerait ici en cas d'accident nucléaire. Voilà. J'ai posé la question à l'ancien préfet. Bon, bien évidemment, j'ai eu une réponse de préfet. Aujourd'hui, s'il y a un accident nucléaire aujourd'hui, je vous explique en deux mots, vous avez les PPI, plans personnalisés d'intervention, qui sont des périmètres autour des centrales où on nous dit on va évacuer. Très bien. Vous prenez le PPI de Tricastin, 63 000 personnes à évacuer. Ces personnes-là, on leur dit « Ah, mais vous inquiétez pas, vous avez les pastilles d'iode. » Ah bon ? Pastilles d'iode ?
Qui ne servent à rien si on ne les prend pas quelques heures avant la catastrophe.
J'allais y venir. D'ailleurs, je vais demander au département de me donner un budget pour donner aux populations autour des centrales des boules de cristal de façon à deviner quand est-ce qu'il y aura un accident pour pouvoir prendre les pastilles d'iode. Donc les pastilles d'iode, tout simplement, il faudrait les mettre à l'autre bout du département pour que ce soit cohérent. Donc première incohérence. Après, je pose la question. On évacue ? Comment les 63 000 personnes ? Quand je vois ce qui s'est passé avec l'accident de Marcoule sur le four, où les préfectures ne répondaient pas, que la seule information c'était BFM TV, en tant qu'élu, mon information c'était ça, BFM TV. Je me dis qu'aujourd'hui, s'il y a un accident ici, mais je peux vous garantir qu'il y aura dans le futur 300 000 cancers, c'est obligé.
Voilà, alors revenons à Fukushima.
Alors Fukushima.
S'il y a le moindre séisme actuellement, la piscine... où sont plongées les barres d'uranium.
230 tonnes.
Voilà, s'il y a la moindre fuite, c'est la méga catastrophe mondiale.
Mondiale.
C'en est là.
Oui, on en est là. Voilà. Alors, c'est pour ça qu'après, tout à l'heure, quand j'écoute Jean et j'apprécie beaucoup le travail qu'ils font, ils sont à leur place et ils le font très bien. Excusez-moi. Et j'écoutais M. Courant, on est sur des batailles de chiffres, etc. Après, je pense qu'il faudrait revenir à la logique de bon sens sur le nucléaire et à un moment donné de se dire non, on peut partir sur le prix du kilowatt, etc., sur la quantité déchets, où on ne sera jamais d'accord. Moi, je crois qu'à un moment donné, le bon sens doit l'emporter. Et le bon sens, c'est de se dire qu'au nom du risque qu'on fait courir à toutes ces populations, mais arrêtons, tout simplement, et c'est là que je rejoins Jean et la CAN 84. Eh bien, si je me démarque de certaines personnes, oui, c'est aujourd'hui qu'il faut arrêter. Aujourd'hui.
Même l'ancienne PDG d'Areva, Anne Lauvergeon, à un moment donné, elle a baissé les bras en reconnaissant qu'ils étaient face à une situation à Fukushima qui dépasse l'entendement.
Non, cette dame a déclaré à TF1, alors que l'accident nucléaire venait de survenir.
Au début, elle s'est...
Au début, oui. Mais voilà comment on véhicule aussi des fausses rumeurs. C'est comme le monsieur Chrétien qui avait annoncé, qui a eu un non-lieu d'ailleurs, qui avait annoncé que le nuage ne s'arrêterait aux frontières. Oui. Voilà la désinformation du nucléaire français.
Voilà. Alors maintenant, on ne peut plus cacher vraiment l'ampleur de cette catastrophe. Il faut quand même être...
Fukushima, je vais vous dire, l'ampleur de la catastrophe, c'est comme, vous savez, les jeux de dominos. On a poussé un bouton.
Réaction en chaîne.
C'est la réaction en chaîne. Ouais. Et là, ils sont en train de s'apercevoir que le petit jouet du nucléaire avec lequel on fait des bombes atomiques, qu'on gagne beaucoup d'argent, qu'on exploite des gens, tout est en train de tomber. C'est-à-dire que la contamination est en train de gagner du terrain au Japon. J'ai appris il y a 3 jours que le deuxième lac, le deuxième plus grand lac du Japon est contaminé au césium. Ce lac sert à arroser les terres agricoles. Il sert à la consommation d'eau du Japon. Et là, on va rentrer dans les radiations internes. Comment on va faire là ?
Alors, d'un point de vue politique, diplomatique, on crée le Grenelle d'environnement en 2007. On élabore toute une stratégie de développement des énergies renouvelables. On parle d'efficacité énergétique des bâtiments. On se donne des objectifs comme atteindre en 2020 une consommation de 23% par des énergies renouvelables. Et puis, dans le même temps, on voit le président actuel, M. Hollande, avec le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, AIEA, Monsieur Yukiya Amano, ensemble, ils font la promotion des plus hauts niveaux de sécurité nucléaire. Au lieu d'envisager donc une transition, ils parlent de renforcer encore plus le niveau de sécurité nucléaire. Et en juin dernier aussi, François Hollande s'est prononcé pour une accélération de la mise en application de la future mine géante d'uranium par Areva prévue fin 2013 au Niger. Et il a dit, si ça peut aller encore plus vite, nous y sommes favorables. Tout ce qui peut être fait pour le développement et l'activité économique doit être réalisé dans les meilleurs délais. Alors, je me demande si ce Grenelle de l'environnement, comme le protocole de Kyoto là, pour ce qui était des émissions de gaz à effet de serre, si ce n'est pas encore une mascarade de plus pour noyer le poisson.
Je ne peux que répondre oui.
Voilà. Il y a quelque chose à dire ?
Juste un petit élément concernant les risques nucléaires. Donc, Olivier a cité les 4 événements majeurs qui ont eu lieu. Je voudrais simplement reprendre celui de TMI. TMI, donc fusion d'un cœur, aucun rejet. Voilà. Donc aucun rejet, aucune population touchée. Donc ça montre bien que quelque part, quand il y a un événement majeur, s'il est bien géré, ça peut amener à finalement un rejet nul. D'autre part, vous avez parlé du four, de la façon dont le PU a été géré pour le four de Marcoule. Donc là, on est tout à fait devant un amalgame de désinformation. Pourquoi ce PU a été, a priori, vu de l'extérieur, mal géré ? Parce que dès le départ, il a été dit qu'il n'y avait pas de rejet radioactif. Donc, il n'y avait aucune raison pour qu'il y ait une information quelconque à l'extérieur. Donc, il est clair que devant tous ces faits, on peut analyser d'une façon ou d'une autre, selon qu'on est contre ou pour. Peu importe. Après, je n'ai pas répondu jusque maintenant, j'ai repris la parole parce qu'on ne l'a pas donné, c'est pas grave. Tout peut être analysé et on peut avoir une opinion sur tout. Encore une fois, ce qui est important à mon sens, c'est de ne pas orienter la population par la peur.
Excusez-moi, de quel droit il décide s'il donne l'information ou pas ? Alors, de quel droit ?
C'est pas un problème de droit,
c'est
un problème...
Quand bien même qu'il n'y a pas eu de danger, il y a un accident, il y a 2 morts, ils sont sur des zones sensibles, notamment Marcoule, c'est pas à eux de décider.
Alors, ce qui est important de savoir, c'est que où il y a eu couac, et là je suis d'accord sur le fait qu'il y a eu couac, c'est que l'installation Centraco dont il est question est une installation qui est EDF mais qui fait partie du site de Marcoule. Donc qui devait donner l'information, qui devait dire que finalement c'était pas un événement nucléaire, qu'il n'y avait pas de rejet, qu'il n'y avait rien du tout. Bon, ça a mis un certain temps à se faire et en fait la difficulté elle était justement dans le dialogue et dans le fait que le lobbying nucléaire aussi bien pour que contre est très fort et donc les gens avant de s'exprimer prennent énormément de précautions.
Si les contre étaient forts ça se saurait.
Vous êtes très fort également.
Mais... On ne va pas trop s'éterniser là-dessus. Parce
bien
que
sûr qu'il ne faut pas s'éterniser.
On
peut dire après.
On va arriver à la fin du débat. Et j'ai encore deux points très importants, notamment les déchets nucléaires. Mm-hmm. Hein. Alors, dans une émission dernièrement, donc ce sont des sources fiables, puisque c'est dans Complément d'enquête sur France 2, hein, en octobre dernier, on a pu voir un reportage où il est dit, où on montrait, dans l'est de la France, au cœur d'une grande forêt, dans l'Aube, il y a eu un projet pharaonique. On a érigé 500 cubes de béton immense, parfaitement aligné, et c'est le plus grand site de stockage au monde des déchets nucléaires. C'est la poubelle de la France. Toutes les centrales nucléaires vont déverser leurs déchets là-bas. Donc, je suis en train de me poser la question si il n'y a pas un impact sur la nature. Parce que quand on voit, par exemple, quand on fait du stockage géologique, on enfouit sous terre, même à 400 mètres, et qu'on utilise tous les isolants possibles, que ce soit l'argile ou quoi que ce soit, et qu'il y a quand même des fuites radioactives, on se demande si ce problème de déchets nucléaires, ça ne va pas devenir de plus en plus le casse-tête du nucléaire.
Alors, bon, donc là, c'est pareil, je pense qu'il faut, c'est important de savoir de quoi on parle. Il y a différents types de déchets. Donc, si vous allez sur le site de l'ANDRA, je vous encourage à y aller, vous allez, je pense, un peu mieux comprendre de quoi il s'agit. Donc, contrairement à ce que la personne qu'on a eue au téléphone disait tout à l'heure...
Qui est toujours là, Jean ? Vous êtes toujours là ?
Oui, tout à fait. Oui.
Donc, la limite, vous pourrez le voir sur le site de l'ANDRA, la limite, c'est pour les déchets à vie courte ou vie longue, c'est entre 15 et 30 ans. Bon, après... Ça, c'est la durée de vie, c'est-à-dire la diminution...
Non, vous parlez de la durée de vie, monsieur, soyez honnête. Au bout de combien d'années, la radioactivité a totalement disparu ?
Des millions d'années, je suis d'accord avec vous. On parle de la distinction.
On parle pas de demi-vie, de période,
on
ne comprend pas. Les gens, ils veulent savoir combien d'années pour qu'il n'y ait plus de radioactivité.
On est d'accord. Donc, il y a une distinction entre les déchets à vie courte, et vous avez parlé de la distinction tout à l'heure, et c'est pour ça que je vous reprends, et les déchets à vie longue. Les déchets à vie longue, on est d'accord, c'est plusieurs millions d'années. Bon, donc par contre, il y a une distinction qui est faite entre la partie longévité et la partie activité. Donc on a des déchets très faiblement actifs, qui sont la majorité. On a les moyennement actifs à vie courte, les faiblement actifs à vie longue, les moyennement actifs à vie longue et les hautes activités. Donc c'est vrai que c'est pas simple. On n'a jamais dit que le nucléaire était un sujet simple. Donc la France... par rapport à certains pays, à mon sens, et par rapport aux instances qui sont là pour surveiller que les choses sont faites correctement, dans ce domaine, a bien œuvré.
Oui, mais excuse-moi.
Par rapport à l'Allemagne, si je veux prendre l'exemple de l'Allemagne, les déchets haute activité ont été stockés dans une mine de sel, et il s'avérait que la mine de sel n'était pas une structure suffisamment stable et qu'il y avait de la saumure. Ouais.
Je peux quand même faire une parenthèse.
Tout à fait.
Si pour être dans la légalité, on fait constamment de nouvelles lois et qu'on change constamment les normes,
Non. Il faut savoir une chose, c'est que la France, dans le domaine des déchets, a mis un certain temps à faire des recherches pour savoir quelles étaient les orientations à prendre. Ces recherches ont mené à des stockages différents pour les TFA, les EMA et les HA. Donc tout ce qui est haute activité, la matrice la plus stable retenue à l'heure actuelle, c'est du verre. Il est prévu de placer ces matrices verts sous forme réversible dans le stockage de Bure, qui est une matrice granite. Toute la partie moyenne activité est à l'heure actuelle stockée sur le centre de l'ANDRA, le centre de l'Aube. À l'heure actuelle, on a 25% à peu près du volume qui est utilisé par rapport au million de mètres cubes qu'on a. Donc on est loin d'être saturé. Et les TFA sont sur les sites, c'est-à-dire tout ce qui est gravat, tout ce qui est faible activité liée au démantèlement sont encore sur les sites. Voilà. Bon. Donc, encore une fois, la France a fait ses choix. Elle les a fait il y a un certain nombre d'années. On est comme le disait Olivier tout à l'heure, obligé d'en assumer certains. Personnellement, pour ce qui est des déchets haute activité, moyenne activité, je les assume pleinement parce que je pense que la France a fait un très très bon choix dans ce domaine. Par rapport aux Américains, par exemple, qui stockent, comme on le sait, les combustibles complets sans aucun retraitement, et donc ce qui augmente énormément le risque et le volume des déchets.
Il n'y a pas si longtemps, on jetait les fûts par-dessus dans la mer.
Ah, j'ai jamais dit qu'il n'y avait pas eu d'erreur de fait. Il y a eu l'Angleterre, au niveau de l'Atlantique, il y a eu pas mal de pays qui ont jeté des fûts en mer du Nord. Je ne dis pas que c'était la bonne solution. La preuve, entre ce qui a été fait à certaines périodes et ce qui est fait maintenant, il y a un écart.
Bon.
Un petit mot, Jean, oui. Et ensuite Olivier.
Oui, alors, très brièvement, il faut que les auditeurs sachent qu'il y a à ce jour de produits par l'industrie nucléaire française 1 500 000 m3 de déchets, et que si on continue à faire tourner les centrales nucléaires, en 2020, on aura deux fois plus. D'autre part, les fûts n'ont pas été jetés qu'en mer du Nord, par l'Angleterre. Marcoul, ou Monsieur Travail, a rejeté depuis le début les fûts en Méditerranée. Donc la France a le cul très très sale et on ne peut pas parler d'erreur ou de couac.
Par ailleurs, monsieur parle
du centre de stockage de Bure, mais la population locale ne veut pas de ce centre de stockage de déchets.
Ah ben ça, c'est sûr.
Et puis, que monsieur nous confirme, à ma connaissance, la France continue à exporter en Russie ses déchets du fait que la Hague ne les prend plus.
Alors, Olivier.
Pour revenir sur les déchets, alors on peut faire la bataille des chiffres. Moi, je reviens sur le site d'enfouissement de Bure. On va parler chiffres, mais argent, là, cette fois-ci dans un cadre économique. Est-ce que vous savez combien a coûté pour l'instant Bure?
Je ne sais pas combien ça a coûté, mais c'est intégré dans le prix du kilowattheure.
Voilà, 1 milliard d'euros.
C'est pour ça que notre facture va s'alourdir.
Entre autres.
30% avant 2015.
Non, c'est pas pour ça.
C'est-à-dire,
non.
Quand on parle des déchets, donc tout à l'heure vous parlez des très faibles activités, etc., etc. Bon, moi j'ai les chiffres sous les yeux. Par exemple, sur les très faibles activités, 360 000 tonnes aujourd'hui.
On est entièrement d'accord.
760 000, 1 million de tonnes, 1 300 000 tonnes. Ça veut dire que l'ANDRA, pour qu'il fonctionne, le site d'enfouissement de Bure, pour qu'il fonctionne, il faudra 35 milliards d'euros. Ouais. Quand on pense aujourd'hui démanteler un réacteur avec tous les déchets que ça va créer, démanteler Phoenix aujourd'hui, qui est un réacteur expérimental.
Le nouveau générateur, là ?
Non, non. Non.
Ah, c'est pas ça.
C'était un surgénérateur.
C'était 1 milliard d'euros. Multipliez ça par le nombre de réacteurs.
Sans compter les risques liés au transport des déchets radioactifs. Parce que quand on voit qu'il y a certains camions banalisés qui traversent des ponts tels que le pont de Millau, le moindre problème ou même le moindre accident de la route, ça pourrait provoquer des catastrophes
mais
pas possibles.
Il ne faut pas dire que les déchets nucléaires transitent dans des camions banalisés quand même. Vous pouvez dire ce que vous voulez.
J'ai des sources.
Puisque vous parlez de déchets, n'allez pas à Millau. Restez dans le Vaucluse. Deux fois par semaine, vous avez un camion de plutonium qui passe, ne croyez pas. Et ce camion-là ne résisterait pas, par exemple, à un feu. Alors, si vous voulez, les containers où sont mis les plutonium ne résisteraient pas à un feu sous un tunnel au-delà de 30 minutes. N'allez pas plus loin. Hein.
Les tunnels du Vaucluse. Plus de 30 minutes pour les traverser.
Je dis, s'il y a un feu qui se prend, s'il y a un feu dans le tunnel, le container qui contient le plutonium, le FS7, ne tient pas plus de 30 minutes.
Je ne connais pas les données techniques du FS7.
Je les connais puisque j'ai travaillé sur ça pendant un an. Mmh. Alors je peux te donner les chiffres très
tranquillement. J'aimerais poser une question aux scientifiques. C'est quoi ces réacteurs nouvelle génération EPR?
Avant, je voudrais reparler des déchets qui sont soi-disant envoyés en
Russie.
On n'a
plus beaucoup de temps. Hein.
Non, mais il faut, quand on dit des choses, il faut pouvoir laisser le temps de répondre.
Allons-y.
Donc en fait, l'uranium qui va en Russie, ce n'est pas un déchet. C'est un uranium qui va être enrichi, c'est-à-dire c'est un uranium qui est issu du retraitement et qui va être enrichi en Russie pour être à nouveau rentré sous forme de combustible sur le réacteur du Tricastin, qui est à l'heure actuelle le seul réacteur en France qui consomme de l'uranium retraité.
Retraitement, ça ne veut pas dire suppression de la radioactivité.
Absolument pas.
Après, ils n'en envoient plus, mais ils en ont envoyé jusqu'à pratiquement 2010.
On envoie à l'heure actuelle en Russie tous les combustibles des REP qui sont extraits, les 1200 tonnes par an, on les retraite à UPN et on envoie
pour fabriquer le MOX.
Pour fabriquer le MOX, oui.
Qui est quand même un truc qui est terrifiant.
Tout est terrifiant. Hein. Bon, maintenant, puisqu'on dit qu'on n'a plus trop le temps, là, il y a quand même une chose auquel il faut réfléchir, hein, et il ne faut pas se voiler la face, c'est arrêter progressivement le nucléaire, étant donné qu'il y a des risques et tout ça et tout, je veux bien l'entendre. Le souci, comme vous l'avez dit, c'est le nucléaire, on s'y est engagé. Pas moi, pas vous, les générations antérieures s'y sont engagées.
Non. 3-4 personnes ont décidé. Ça n'a pas été une orientation démocratique votée. Attention.
Okay.
J'y tiens, il n'y a jamais eu aucun débat démocratique sur les orientations énergétiques à cette époque-là. Et celui qui a signé le parapheur, c'était Pierre Madès France, pour ne pas le nommer, et il n'y a pas eu de débat.
Alors, on parle de la France, mais oui. Moi, je vais, on va ouvrir au niveau mondial. À l'heure actuelle, le nucléaire mondial, en termes de production d'électricité, c'est 17%. Donc, il n'y a pas eu qu'un Modeste France, on est d'accord.
Oui.
Bon, voilà. Peu importe, c'est pas grave.
Mais moi, j'ai envie de dire, j'ai quand même.
Non, c'est le fondement de la démocratie, là.
Oui,
le peuple n'a pas été. N'a pas pu apporter sa voix.
J'ai envie de dire que ce n'est pas seulement le domaine du nucléaire.
Est-ce qu'on parle du fondement de la démocratie ou est-ce qu'on parle ouvertement d'une solution possible pour sortir du nucléaire? Moi, je veux bien qu'on sorte du nucléaire, mais remplaçant par quoi?
Vu l'état des choses, que l'on sorte ou que l'on sorte pas, j'ai l'impression que les carottes sont quand même déjà cuites, malgré tout.
Il faut déjà assumer, d'une part, les choix qui ont été faits par nos prédécesseurs. Et ça, à mon avis, on a quand même notre part de responsabilité.
Bon, moi, j'ai envie de finir avec une phrase de Günther Schwab. C'est un Autrichien écrivain, fondateur de l'Union mondiale pour la protection de la vie, qui a eu, par son action, un réel impact sur les prises de position de son pays face au nucléaire, puisqu'en effet, en 78, le Parlement autrichien, après plusieurs bras de fer avec la population, a finalement voté une loi interdisant la construction ou la mise en service de centrales nucléaires en Autriche. Donc, sa phrase est... En s'éloignant de plus en plus de la nature, l'homme prouve à quel point il lui est en fait soumis.
Mais je suis entièrement d'accord avec le fondement de cette phrase. Et ça ne concerne pas que le nucléaire, malheureusement.
Voilà. Ben, si on finissait là-dessus, il y a peut-être une petite phrase à rajouter.
Moi, je vais être délibérément un petit peu violent. Ceux qui prennent les décisions de continuer dans cette stupidité, il faudra un jour qu'ils répondent de ces actes-là.
Voilà. Daniel.
Et nous, au niveau du collectif anti-nucléaire, on dira oui à la vie, oui à l'air, oui à l'eau, arrêt immédiat du nucléaire, arrêt du crime.
Alors c'est Daniel qui va avoir le dernier mot, ça va vous plaire. Ça.
Je ne l'avais pas préparé. Moi, je dirais que chaque être humain, en particulier les Français, assument leur consommation et essayent de comprendre ce qui se passe en termes mondial et énergétique et changent leur manière de vivre.
Voilà. Ben, merci beaucoup. En tout cas, ce fut très instructif tout cela. Et à une prochaine, peut-être.
Avec plaisir.
Au revoir, merci. Olivier. Au revoir, Jean. Et au revoir, Daniel.